Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Travers, la cofondatrice de l'agence C'est pas de la com, que j'ai eu la chance de découvrir lors de mon voyage au festival Cannes Series l'année dernière. Je me suis vraiment super bien entendue avec Joëlle et j'ai trouvé que sa sagesse et sa bienveillance pourraient également vous être bénéfiques, alors on a décidé d'enregistrer un épisode ensemble. Dans cet épisode, Joëlle nous partage son parcours et ce qui l'a poussée à devenir entrepreneur alors qu'elle n'y était pas du tout destinée. Comment et pourquoi monter sa boîte lorsqu'on est encore étudiant ou à la sortie de ses études, et les pour et les contre de se lancer seul ou bien de s'associer. Joëlle nous partage aussi ses conseils pour croire en soi dans les moments difficiles, la nécessité de savoir prendre du recul et de désacraliser l'échec, et de réaliser qu'on a, au final, toujours le choix. Si In Power vous plaît, c'est en s'abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser que vous le soutenez le plus et en laissant un petit avis sur Apple Podcasts que je lis toujours avec plaisir. J'aimerais d'ailleurs remercier cette semaine Laure Dulce qui a laissé le commentaire suivant. Salut Louise, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais à la fois sur les réseaux sociaux et au travers de tes projets personnels. Tes vidéos et tes podcasts m'ont motivé moi aussi à réaliser des choses que je voulais faire depuis longtemps. J'espère avoir l'occasion de te rencontrer et échanger avec toi un jour. Eh bien écoute Laure, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer lors du prochain événement de Girls in Biz, qui aura lieu le 21 octobre, car c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers, pour vous rencontrer et pour pouvoir échanger avec vous. Merci en tout cas pour ton gentil message, et toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire quelques lignes. Et je suis ravie de vous inviter désormais à rejoindre notre conversation avec Joëlle. C'est lancé. Donc bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je suis en compagnie de Joëlle. Salut bonjour. Joëlle. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Alors, je suis la cofondatrice de l'agence de communication C'est pas de la com. Donc, C'est pas de la com, c'est une agence qui imagine et conçoit des concepts de communication et qui va les proposer à des marques et qui réalise toute la mise en place et s'assure du bon déroulement des opérations.
Quand est-ce que tu t'es intéressée au secteur de la com et pourquoi est-ce que c'est vers là que tu t'es orientée ?
Alors, ça va être très drôle parce que j'ai pas forcément une formation de communicante. Moi, j'ai fait des études de gestion, donc rien à voir. Et en fait, ça s'est fait un peu au fil du temps.
Ouais.
Donc, je me suis découverte une passion pour la communication. C'était assez naturel, en fait.
D'accord, ça, ouais, c'est marrant. En fait, on se rend souvent compte que la vie nous amène ailleurs que là où on avait imaginé. Parce qu'en plus, bah, toi, tu vas nous en parler, mais tu avais fondé une boîte avant qui n'était pas dans le secteur de la com. Et déjà, moi, je sais même pas ça, parce que bon, je connais Joëlle un peu, et je sais que donc t'as fondé ta boîte avant. Est-ce que avant ça, t'étais dans une autre entreprise, ou est-ce que en sortant de, je crois que t'as fait HEC,
c'est ça.
T'as fondé Miskit Beauté.
Miskit, tu me fais rire.
Ah parce ouais. Que, je rajoute le beauté.
C'est Miskit, mais tout le monde a tendance à appeler ça Miskit. Ça me faisait beaucoup rire auparavant. Du coup, Miskit, je l'ai imaginé quand j'étais encore à l'école.
Okay.
Donc un peu comme toi, tu sais, sur différents projets entrepreneuriaux.
Ouais.
Et c'est un projet que je voulais concrétiser. Et j'ai testé d'abord à l'école auprès de d'autres entrepreneurs qui m'ont donné leur avis, leur expérience pour avancer sur mon projet.
Ouais. C'est vraiment un truc que tu voulais faire ? Est-ce que tu avais, toi, le besoin, quand tu as eu cette idée ? Parce qu'en fait, c'était, dis-moi si je me trompe, mais c'était le principe des box de beauté.
C'est ça.
Où on pouvait choisir, je crois, ce qu'on voulait dedans. Enfin, dis-nous ce que c'était, parce que tu le dirais mieux que moi.
Ouais, alors comment expliquer Miskit ? Tu sais, ça fait 3 ans que j'ai arrêté.
Ouais.
Donc, en fait, Miskit, c'était un site internet sur lequel, tous les mois, je proposais une nouvelle sélection de produits cosmétiques à mes clientes, sous forme de box beauté. Mais ce n'était pas réellement une box beauté. C'était une offre découverte sans abonnement, avec des produits en format full size et en édition limitée.
Okay.
Voilà, pour résumer.
Ouais, non, mais je vois très bien. Et pourquoi c'est là-dedans que tu voulais créer ta boîte ? Est-ce que c'était une envie parmi d'autres ? Ou est-ce que tu t'es vraiment dit, en fait, moi, j'aimerais vraiment que ça existe et du coup, c'est ça qui t'a poussé à le faire ?
Il y a plusieurs raisons. En fait, j'adorais le milieu des cosmétiques. Et je trouvais que l'offre était très étendue. C'est-à-dire que c'est difficile de faire son choix quand t'as pléthore de produits.
C'est vrai.
Et du coup, je m'étais dit que tester les produits avant de les acheter, ça pouvait être une bonne solution.
C'est vrai.
Donc, je trouvais le concept des box plutôt adapté, en fait, aux besoins du marché. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire ? Ça nécessitait pas beaucoup d'investissement au départ, mais il fallait être débrouillarde.
Qu'est-ce qui était le plus dur, tu trouves, de monter ta boîte, bah, du coup, à la sortie d'école ou même encore en cours ?
C'était le réseau. J'avais pas forcément le réseau.
Ouais.
Et grâce à HEC, par contre, j'ai réussi à étoffer mon réseau, notamment en m'appuyant sur les anciens de cette formation, mais aussi j'ai frappé aux portes.
Ouais.
Donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte.
Ouais.
Et c'est ça qui a payé finalement.
Et t'étais toute seule dans cette aventure-là ?
Ouais, toute seule.
C'était dur avec le recul, tu trouves ?
Ouais. Aujourd'hui, je pourrais pas le refaire.
Ouais.
En fait, je regrette absolument rien.
Ouais.
Mais je sais que monter une boîte seule, c'est très difficile. Parce que t'as personne sur qui te reposer et tu dois prendre des décisions seule. Aujourd'hui, avec... c'est pas de la com, je suis la cofondatrice. Donc j'ai une associée et je peux partager les responsabilités.
Avec qui tu t'es associée ?
Avec Rosemonde Pierre-Louis.
Ouais.
Qui, elle, pour le coup, est une pure communicante. Elle a toujours travaillé dans la communication et en fait, on a allié nos compétences.
Ouais. Comment est-ce que tu l'as découvert ? Est-ce que vous étiez amis avant ? Est-ce que
ça
a été plutôt un coup de cœur professionnel ?
Ouais, c'est ça, c'est un coup de cœur professionnel. En fait, c'est assez particulier parce que quand j'avais MySkit, j'étais un peu excentrée, j'étais à Ivry-sur-Seine et je travaillais seule. Bon, j'avais des prestataires avec qui je travaillais de manière très régulière. Mais j'avais personne avec moi pour partager le quotidien au bureau.
Mmh.
Et un jour, j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit, bon, je vais me trouver des bureaux à Paris. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, bah écoute, moi, je suis installée dans le 8e. C'est un très bel appartement qu'on partage avec d'autres entrepreneurs. Tu devrais venir. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir. Et là, je tombe sur Rose, à qui je fais connaissance, tout simplement. Et qui me dit, bon, bah qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc, je lui parle de MySkit. Je raconte, elle me dit c'est génial ce que tu fais, mais quelle galère. Elle me dit mais dans quoi tu t'es lancée, ça doit être tellement compliqué, le e-commerce, en plus t'es toute seule, oh là là c'est horrible. Et là je me dis mais elle a un regard assez,
cru,
pas négatif mais cru sur mon activité. Donc j'échange avec elle et je lui demande ce qu'elle fait, et elle me dit oui moi maintenant je me consacre à la communication. Mais auparavant, j'avais un site e-commerce de produits cosmétiques naturels. Et là, je me suis rendu compte après quelques années que c'était très difficile. Donc j'ai tout arrêté quand j'ai eu un enfant. Et là, je fais de la communication et c'est génial, je suis super heureuse, je revis. Et donc là, je me suis dit, elle a peut-être raison en fait. J'adore ce que je fais, je m'y consacre pleinement. Je suis contente, je rencontre énormément de gens, je réalise un peu mon rêve aussi. J'organise de beaux événements à Paris, on commence à parler de mon entreprise, j'ai plein de marques qui me contactent, j'arrive à les fidéliser. Donc au final, j'ai réussi ce que je voulais entreprendre. Mais parallèlement à ça, j'ai eu l'impression d'être passée un petit peu à côté de ma vie personnelle. Donc je l'avais mise entre parenthèses. Et quand Rose me dit « moi je revis depuis que j'ai arrêté mon activité e-commerce », je me dis, bon, bah, faut que j'y réfléchisse quand même.
T'avais quel âge du coup ? T'avais 20
ans ? Là, j'avais moins de 30 ans.
Ouais.
Tu sais, là, j'arrive plus à compter les années.
Ouais, ouais. on s'en fout un peu dans l'absolu,
ouais,
mais c'est pour me situer
ans,
combien de temps a duré l'aventure en fait,
ouais.
MySkit ?
Bah, j'avais 25 ans quand j'ai créé MySkit.
Ouais.
Et du coup, ça a duré 5 ans.
Ah, oui, quand même.
Ouais, ouais.
Ah ouais, donc 5 ans seul, c'est vrai que c'est difficile, je pense, 5 ans seul. Et t'as pas voulu t'entourer, en fait, au bout d'un moment ?
Si, bien sûr, je voulais lever des fonds, je voulais recruter. D'ailleurs, j'avais entamé toutes ces démarches. J'avais rencontré des fonds d'investissement, j'avais rencontré des potentiels partenaires. J'avais la possibilité aussi de recruter, mais je m'étais dit que tant que j'avais pas, entre guillemets, sécurisé et pérennisé mon activité, c'était un peu compliqué de recruter du personnel. Et puisque j'avais des freelances qui travaillait de manière régulière pour moi, j'avais pas ressenti le besoin en l'état de recruter. Mais du coup, effectivement, je me retrouvais seule. Et ça, c'était une situation un peu délicate. Après, j'avais une chance, c'est que j'avais ma famille, mes amis qui étaient là aussi pour me soutenir, m'accompagner, m'aider, et ils m'ont vraiment poussée à aller jusqu'au bout des choses. Parce que plusieurs reprises, j'ai eu envie d'arrêter.
Ouais.
J'ai eu envie d'arrêter parce que j'avais un petit peu peur de l'avenir. Mais en même temps, c'était tellement stimulant que je pouvais pas arrêter.
Je sais ce que tu veux
dire.
C'est-à-dire
que j'étais toujours... Voilà. C'est que quand je voyais le succès de certains kits ou de certains événements ou des marques qui me sollicitaient en me disant « on veut absolument participer à une opération MySkit », là, je me disais, ah bah non, je peux pas arrêter, bon, je continue. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Je regrette absolument pas. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'étais un peu folle de faire ça toute seule.
C'était quoi, en fait, ton rêve, à la base ?
Professionnellement parlant, tu veux dire ?
Ouais, enfin, quand tu disais, je crois que t'as dit, en fait, je réalisais un peu mon rêve.
Ouais, mais en fait...
C'était quoi, le rêve ?
J'ai plusieurs rêves, donc c'est un peu compliqué, mais... moi, j'ai toujours rêvé d'être indépendante.
Ouais.
C'est-à-dire que même quand j'étais au lycée ou à la fac, j'allais très peu en cours, mais en revanche, je travaillais énormément. C'est-à-dire que j'étais autonome et je savais travailler toute seule. Et d'ailleurs, j'avais d'excellents résultats sans forcément aller à l'école et mes profs n'étaient pas très contents.
Mmh.
Et du coup, moi, mon objectif, c'était d'être indépendante. Après, j'avais pas de secteur de prédilection, mais j'aimais beaucoup le secteur de la beauté. Parce que j'avais des affinités avec ce secteur. Je suis une grande consommatrice de produits cosmétiques, j'adore le make-up. Je suis les actualités en matière de lancement de produits. Voilà, c'est un secteur que j'adore. Donc je me voyais bien évoluer dans ce secteur-là. Mais bon, j'avais eu une expérience dans l'aéronautique, j'avais eu une année en apprentissage. Donc finalement, à un moment donné, je me destinais plus à chercher un emploi dans l'aéronautique. Et finalement, je ne me voyais pas du tout être salariée, en fait.
Mmh.
C'est un peu bizarre à expliquer, mais je ne me voyais pas, entre guillemets, emprisonnée.
Non, je vois totalement, je partage le même sentiment.
Avoir des supérieurs hiérarchiques.
Avoir des comptes à rendre, moi, c'est un truc qui me...
Bon, dans tous les cas, on en a toujours des comptes à rendre.
On a toujours une forme de boss, hein, dans tous les cas.
Ouais, exactement. Même aujourd'hui, j'ai mon agence de communication, on est indépendante avec Rose, on a des salariés, etc. Mais nos supérieurs hiérarchiques, entre guillemets, même si on n'en a pas, ça reste nos clients. On doit
totalement
les satisfaire. Et du coup, on rend des comptes.
Ouais.
On est obligé de rendre des comptes.
Ouais. Toi, c'était vraiment le côté structure, en fait. Que...
Oui, c'est la structure, c'est ne pas être libre de mes choix, de mes horaires. Ça me posait problème. D'ailleurs, le fait de sécher les cours, etc. à l'école, ça le démontre bien, en fait.
Ouais, l'autorité même.
J'ai toujours eu un peu de mal avec ça.
Ouais.
Mais ouais, de toute façon, j'aurais pas pu imaginer un autre métier pour moi.
Ouais.
Si peut-être médecine. Mais,
okay.
Mais ça, c'est une
chose.
Rien à voir. Je pense que j'aurais pu être médecin, mais par contre, j'aurais pas pu être salariée d'une entreprise.
Il fallait la liberté. Mais en fait, c'est pour ça que je te posais la question de quel était le rêve, parce que tu vois, le fait d'entendre que t'as quand même, du coup, sacrifié beaucoup ta vie personnelle, que cette aventure entrepreneuriale solo a duré 5 ans, j'ai quand même l'impression que ma génération, mais aussi la tienne, vu que c'était le cas aussi pour toi, ce rêve ou cet idéal d'accomplissement, tu vois. On recherche beaucoup, je sais pas, une espèce de réussite, tu vois, professionnelle, qu'on aurait construit soi-même. Et en fait, je suis contente d'avoir posé la question, parce qu'en fait, on se rend compte que non, pour toi, c'était beaucoup plus simple que ça. C'était juste le sentiment de liberté, parce que je pense que c'est très bien de vouloir se prouver des choses, par exemple à travers l'entrepreneuriat, mais qu'en fait, on peut très vite s'y perdre. Et qu'aujourd'hui, je trouve qu'on glorifie énormément les projets entrepreneuriaux ou le surtravail, alors qu'en fait, si c'est au détriment de sa vie, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Mais parfois, comme on veut tellement, tu vois, avoir cette image glamour de l'entrepreneur qui a monté sa boîte et qui a réussi, on peut parfois, en fait, se tuer au travail, et ça mène au burn-out qu'on connaît aujourd'hui.
Parce qu'on a tendance à avoir qu'un seul type d'entrepreneur, alors qu'il y a différentes formes d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les nouvelles générations sont en quête de sens.
Mmh.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de réaliser des choses qui ont du sens pour nous.
Mmh.
C'est plus la génération de parents où il faut trouver un bon travail, s'assurer d'une stabilité, pour construire une famille, etc. Aujourd'hui, on a envie de réaliser ses rêves, de faire des choses qui ont du sens et qui nous enrichissent, pas que financièrement.
Mmh, totalement. Et toi, quand est-ce que tu as réalisé qu'il serait peut-être temps, entre guillemets, de vivre ta vie ? Et du coup, quel changement t'as mis en place concrètement pour essayer de retrouver un équilibre ?
Alors, tout d'abord, je me suis beaucoup remise en question dans l'aventure MyKit, parce que, comme je te le disais, ça se passait bien. J'avais réussi à fidéliser environ 150 marques, donc c'est pas rien.
Mmh.
Des marques sur lesquelles je pouvais compter régulièrement pour approvisionner mes kits beauté. Et j'étais satisfaite de ce que j'avais réussi à accomplir. Mais, comme je te le disais, j'avais eu l'impression d'avoir mis ma vie personnelle de côté et j'arrivais à la trentaine et j'avais aussi envie de construire, de consolider ma vie de femme, mon couple et d'avoir des projets personnels au-delà de mes projets professionnels. Parce que pendant ces 5 ans, je me suis concentrée vraiment sur le pro. Et puis, cette rencontre avec Rose, elle a été aussi décisive. Parce que quand elle m'a dit toutes ces choses-là, de manière très crue, je me suis dit, mais elle est complètement tarée, elle est folle. Mais elle a attisé ma curiosité. Donc, on a commencé à échanger, on s'est rendu compte qu'on avait rencontré un petit peu les mêmes galères. Service client, la logistique. Et tout ça faisait qu'on en riait ensemble. Et puis, donc on a fini par partager nos bureaux, on partageait même nos stagiaires. Je ne sais pas si c'est très légal de dire ça.
Les dessous de l'entrepreneuriat.
Mais elle m'a proposé comme ça, vraiment au cours d'une conversation, elle m'a dit, ça ne dit pas qu'on organise ensemble un événement durant le Festival de Cannes. C'était fin janvier. Festival de Cannes, c'est au mois de mai. Donc moi, j'étais aussi un peu tarée. Hein. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, oui, faisons-le. Elle m'a dit, écoute, je m'occupe des personnalités, je m'occupe de la presse, et toi, tu t'occupes de trouver toutes les marques qui vont nous accompagner sur cet événement-là. Je dis, pas de problème, allez, go. Et pendant plusieurs mois, donc pas tant que ça finalement, je crois que pendant juste 3 mois, on a travaillé d'arrache-pied pour essayer de monter ce projet. Et là, on s'est rendu compte que personnalité, presse et marque nous suivaient sur ce projet. Donc, on y est allé et on a organisé ce projet qui s'appelait Beauty Break. Et le succès a été au rendez-vous puisqu'on a eu les télés qui ont filmé, on a eu plusieurs articles dans la presse, on a eu des top influenceurs qui ont fait le déplacement pour participer à notre événement. Et en revenant de cet événement, on n'était pas encore associés. Hein. Moi, j'avais toujours MyLiskit et elle était toujours en freelance dans la com. En revenant de cette aventure, à deux, on avait énormément souffert parce que je te laisse imaginer le Festival de Cannes. C'est le rush total, on ne dormait pas, on devait être toujours au taquet pour accueillir nos invités. On revient de cet événement, moi j'avais perdu 3 kilos, Rose, pareil, c'était le meilleur régime du monde. Quoi. On revient de cet événement et Rose me dit, mais... pourquoi on montrait pas notre boîte? Je dis pas, allez, on monte notre boîte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi à créer une boîte ensemble et on a monté notre boîte au mois d'août. Et donc, C'est pas de la com est né.
D'accord. Attends, c'est trop cool. C'est, en plus, ça se voit que ça s'est fait de manière très naturelle en fait.
Ouais,
et que...
c'est fou. Hein. Alors que durant l'aventure MyLiskit, j'avais eu beaucoup de mal à trouver un associé. J'ai rencontré énormément de personnes.
Ah, donc tu en cherchais hein, quand même.
Ouais, je recherchais. Je me disais que si je rencontrais la bonne personne, je serais prête à m'associer. Mais il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cette bonne personne. Pourtant, j'ai participé à énormément d'événements dédiés aux entrepreneurs. J'ai fait des conférences en me disant bah, peut-être que quelqu'un voudrait s'associer à moi. J'ai pitché pour essayer de lever des fonds. Pareil, on voulait me présenter à des personnes pour s'associer, mais au final, ça n'a jamais abouti. Et il a suffi que je rencontre Rose par hasard pour qu'on ait un coup de cœur professionnel et que finalement, les choses se fassent naturellement.
Ouais.
Là, c'était une évidence. On s'est posé aucune question et on s'est dit, allez, on monte une boîte.
Ouais. Je pense qu'il ne faut vraiment pas douter de la personne avec qui on s'associe.
Là, on avait peur de rien. À aucun moment, on a remis en question cette idée de monter une boîte. Parce que c'était une évidence. On a fait cet événement, ça a fonctionné, on s'est supporté.
C'est ça.
Dans des gros moments de stress. Et là, on s'est dit, oui, c'est le bon moment.
Ouais.
Et c'était pareil pour elle, parce qu'elle non plus n'avait jamais réussi à trouver un associé.
Donc c'est hyper intéressant. Et surtout, ce que vous avez eu, entre guillemets, la chance de faire, et qui, je pense, n'est pas forcément à la portée de toutes les personnes qui essayent de trouver un associé, c'est de tester avant votre fit professionnel.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez eu un peu cet événement que vous avez fait ensemble, mais qui n'engageait que vous. Et vous avez pu... voir que ça marchait professionnellement entre vous. Et ça, je pense que si on pouvait tous tester, et en soi, on devrait même le faire, enfin, je crois que des entrepreneurs que je connais m'avaient dit comme conseil, limite faites un tu sais, les start-up week-end avec une personne avec qui vous voulez vous associer, même si c'est pas du tout sur le projet auquel vous pensez, juste pour voir si en 2-3 jours, vous pouvez monter quelque chose ensemble. Et en fait, parce qu'en 2-3 jours, non-stop, c'est un peu le principe des startups week-end, tu te rends très vite compte s'il y a un aspect de la personnalité de la personne qui ne va pas. Tu vois, si par exemple, toi, t'es quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, mais que la personne avec qui tu pensais t'associer est hyper cassante, ça n'ira pas, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen de tester avant de s'engager, quoi.
Ah ouais, tester, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce qu'il faut faire avant de s'associer. Parce que c'est engageant, s'associer. C'est comme un mariage. Donc, t'as besoin de connaître la personne, ce qui l'anime, ses valeurs. C'est hyper important.
En plus, au début, je le sais parce que moi, c'est aussi une vision que j'avais il y a encore pas très longtemps, naïve. Tu vois, je me disais, oui, bon, c'est bien si on partage les mêmes valeurs, mais après, ça reste pro, tu vois. C'est pas grave si on n'est pas les meilleurs amis du monde. Mais en vrai, si. Enfin,
si,
je l'ai vécu, tu vois.
Tu passes beaucoup de temps avec ton associé.
Toute personne, même avec qui tu travailles, je trouve que si tu partages pas les mêmes valeurs, ça va se ressentir à des moments. Et en fait, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Il faut pas se dire, ça passera ou on fera avec. C'est non, il y a trop de risques dans un projet qui te tient à cœur pour prendre des personnes avec qui ça passe plus ou moins, quoi.
Je suis d'accord. Les valeurs, ça reste le fondement, en fait, de l'association. Ça. Parce qu'on peut avoir des traits de caractère différents. Par exemple, avec Rose, on est totalement différentes. En revanche, on a les mêmes valeurs. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'entend et qu'on va dans la même direction.
C'est la base du gâteau. Les valeurs.
C'est ça.
Il faut la bonne farine. Et je me demandais un truc, vraiment par pure curiosité, c'est quand tu montes une agence de com, comment tu fais pour que les marques te fassent confiance alors même que tu n'es personne?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que nous, si ça a fonctionné, c'est parce qu'on avait d'autres expériences auparavant. C'est-à-dire que dans la mesure où j'avais une société spécialisée dans les cosmétiques, etc., j'ai moi aussi, à un moment donné, fait appel à une agence de communication. Donc la chance qu'on avait, c'est d'avoir ce recul en se mettant à la place du client. Parce que dans la mesure où j'avais cette société et que moi aussi j'ai fait appel à une agence de com, je savais quelles étaient les attentes d'un client. Et puis, comme je te le disais aussi, durant l'aventure MySkit, j'ai réussi à fidéliser 150 marques avec qui ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc ce sont par la suite des marques que j'ai pu recontacter en les informant que j'avais monté une agence de communication avec Rose. Et la différence avec des agences de communication traditionnelles, c'est que nous, on imaginait des concepts et qu'on allait ensuite démarcher les marques pour leur proposer ces concepts-là. Donc des concepts sur mesure, adaptés à leur activité, à leur ADN, etc. Donc je pense que c'est ce qui a fonctionné en tout cas pour C'est pas de la com.
Ouais. C'est pour ça que vous avez appelé ça « C'est pas de la com » ?
Ouais, parce que c'est plus que de la communication.
Ouais, ouais.
Donc on est dans l'émotion, on est dans le lien, on dépasse le cadre strict de la communication traditionnelle, donc les RP.
Je vois ce que tu veux dire. Et tu disais du coup que tu avais ressenti le besoin de t'épanouir aussi dans des projets personnels quand tu étais chez MySkit. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui ?
Alors oui, ma vie a changé.
Ok, bah, trop cool.
Ma vie a complètement changé. J'ai presque même des horaires de travail.
Incroyable,
ça, c'est
mais
magique.
Vrai.
J'ai même mes week-ends parfois, donc j'apprécie. Et en fait, effectivement, quand j'étais seule chez MySkit, du fait que je sois seule, j'étais obligée de travailler non-stop. Donc j'avais plusieurs choses à gérer en même temps. Et là, pour le coup, avec C'est pas de la com, comme on est dans du service, déjà d'une, c'est beaucoup plus simple parce qu'on travaille sur les horaires de bureau, hormis quand il y a des événements. Là, on est obligé vraiment de travailler les week-ends ou en soirée. Mais ouais, c'est deux activités différentes et avec le temps, j'ai réussi à m'organiser d'une manière aussi différente et à ne pas sacrifier ma vie personnelle pour être vraiment pour travailler dans de meilleures conditions.
Ok. Ouais, donc t'as en fait le fait de pas avoir eu, entre guillemets, de vie personnelle pendant 5 ans, quoi. Tu t'as vraiment pas fait de sacrifice dessus pendant... Enfin, en fait, maintenant, avec C'est pas de la com, quoi.
Oui, et puis c'est aussi le fait de travailler avec Rose,
qui,
elle, est un peu plus âgée, qui a une vie de famille, donc des enfants, et qui me disait, écoute, ça changerait rien si tu réponds à ce mail en pleine nuit, attends le lendemain. Donc elle avait cette sagesse-là.
Okay.
Elle a réussi à me la transmettre. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de recul sur notre activité, à gérer vraiment les priorités. Quand c'est nécessaire, bah, écoute, je peux dépasser le cadre de mes horaires. De toute façon, on le fait forcément. Mais je ne me tue plus à la tâche comme avant. C'est-à-dire que je vais faire des nuits blanches que si on a vraiment un très gros événement ou une urgence à gérer. Mais si ce n'est pas nécessaire, c'est inutile de le faire. Mmh. Alors qu'avant, auparavant pour MySkit, il y avait des nuits où je réfléchissais à mes prochains concepts et j'arrivais plus à m'arrêter, en fait.
Ouais, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, en fait.
Il y aura toujours quelque chose à faire. C'est juste mieux s'organiser, mieux gérer son temps et prioriser.
Mmh. Est-ce que tu te fais des objectifs, je sais pas, genre au début de l'année, où tu essaies de te dire, bon, bah, cette année, je vais faire plus de ça, je vais faire moins de ça. Est-ce que tu essaies, entre guillemets, de continuer cette remise en question ou c'est un truc que tu fais naturellement ?
Ah ouais, ça se fait naturellement. On se remet perpétuellement en question au sein de l'agence. On essaye de proposer toujours plus, mieux. On suit aussi les tendances du marché. On essaye d'être assez avant-gardiste, à anticiper l'évolution de certains secteurs. Pour pouvoir justement être prête le jour où la demande se fera. Donc, surtout que le secteur de la communication, c'est un secteur assez particulier. Hein.
Et qui évolue vite.
Il y a beaucoup de concurrence.
Ouais.
Et puis, le client est moins captif. C'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait, il trouvera forcément une autre agence qui répondra à ses besoins.
Ouais.
Donc, les clients sont de plus en plus exigeants.
Ouais.
Donc, l'idée, c'est d'être au plus près de leurs attentes et de répondre à leurs besoins. Mm.
Et je parlais même pour toi, personnellement. Est-ce que tu essayes de faire des checks, on va dire ? Parce que je trouve que quand on est passionné et qu'on a notre projet, c'est dur de réaliser parfois des erreurs qu'on commet ou si on n'est pas assez présent ou quoi. Donc est-ce que toi, parfois, tu te dis ce mois-ci, je sais pas, je vais essayer de couper mon tel pendant 3 jours ou cette année, je fais en sorte de réserver une heure chaque semaine, je sais pas, un dîner avec mon mec. Enfin, est-ce que personnellement, pour toi-même te nourrir, t'essayes de mettre aussi des barrières ou t'essayes de mettre en place, tu vois, des temps que tu vas pas sacrifier?
Ouais, bien sûr. Oui. Par exemple, pour les vacances.
Ouais.
Autrefois, c'était pas vraiment des vacances. J'avais toujours mon téléphone, mon ordinateur. D'ailleurs, je pars jamais sans mon téléphone, mon ordinateur. Mais aujourd'hui, j'essaye de profiter de mes vacances. Parce que quand tu passes toutes tes vacances à travailler, au final, autant rester au bureau et,
carrément.
Et essayer de te dégager du temps pour vraiment partir en vacances. Donc, j'essaie vraiment d'accorder du temps, un peu plus de temps, du moins, à ma famille, à mes amis. C'est hyper important pour son équilibre personnel.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être pensent à lancer leur projet, que peut-être toi, t'aurais aimé savoir ?
Alors, moi, je trouve qu'on a une vision très angélique de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on va souvent écouter des témoignages de personnes qui ont réussi et qui occultent parfois les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et ça, je trouve ça dommage, en fait, parce que la richesse de l'entrepreneuriat, c'est aussi toutes les difficultés qu'on affronte, parce que c'est ces difficultés qui nous permettent, justement, d'améliorer notre offre, entre autres. Donc les occulter, je trouve ça assez dommage. Au contraire, il faut en faire une force. Moi je sais que quand j'ai démarré MySkit, ça a été très difficile de convaincre les premières marques de fournir les produits pour mes premiers kits, parce que personne ne connaissait. J'arrivais sur un marché où tu avais déjà Glossybox et Jolybox, et je cassais un petit peu le système des box en proposant une offre sans abonnement, et je me rappelle que tout le monde me disait, mais attends, il te faut de la récurrence, sans récurrence ton modèle n'est pas viable. Je me suis dit, mais on va fidéliser les clientes en leur proposant des produits vraiment adaptés à leur profil. Et de fait, elles reviendront parce qu'elles ont été satisfaites. Effectivement, ça a fonctionné. Mais il fallait pouvoir alimenter chaque mois ces box, ces kits, et faire en sorte que ces kits soient adaptés, que les produits conviennent à mes clientes qui sont toutes différentes les unes des autres.
Carrément.
Donc, je te cache pas que ça a été un peu difficile. Donc, je contactais énormément de marques, j'allais en rendez-vous, je faisais des presses, etc. Et finalement, il suffit qu'une marque te dise oui pour que ça attire les autres et que ça continue ainsi. Et finalement, ces marques, comme elles lancent régulièrement de nouveaux produits, eh ben, c'était plus simple d'alimenter mes kits. Parce qu'à chaque lancement de produit, c'était pour eux une sorte de coup de com'.
Ouais.
Donc, ça permettait aussi d'avoir les premiers retours des clientes sur ce nouveau produit qu'elle a intégré le marché. Donc, c'était assez intéressant. Mais
est-ce que tu as un échec en tête que tu pourrais nous partager?
Alors, je ne sais pas si c'est un réel échec ou non.
Parce que dans tous les cas, c'est un truc qui peut nous faire rebondir.
Ouais, mais c'est ça.
Et c'est juste que moi, je pense que j'entends pas le terme échec comme on peut l'entendre.
Ouais, c'est ça.
Parce que bon, il faut bien le nommer, il faut bien lui donner une certaine signification. Mais pour moi, en tout cas aujourd'hui, je vois vraiment plus l'échec comme quelque chose qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu, mais qui... si on en a su en tirer les bonnes leçons, peut nous amener ailleurs, tu vois. Mais au sens où on l'entend, justement, pour démocratiser, peut-être pour rassurer les personnes qui connaissent des moments difficiles, si tu penses à une fois en particulier où, je sais pas, t'as cru que c'était vraiment la fin, ou un truc qui t'a fait très très stressé, et peut-être du coup comment t'as réussi à le transformer en fait en succès entre guillemets.
En fait, des difficultés, des échecs, on en rencontre beaucoup tout au long de son parcours d'entrepreneur. Après, s'il y a un cas en particulier qui m'a marquée, je dirais, en fait, moi, ce que je regrette, c'est plus un regret. C'est pas forcément un échec, c'est un regret. Je regrette de pas avoir réussi à trouver les financements nécessaires pour pouvoir passer un cap au sein de mon entreprise. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que, effectivement, en fait, j'aurais pu continuer longtemps et peut-être que je me suis arrêtée trop tôt. Donc, je pense que c'est important de persévérer parce que On peut, dans tous les cas, à force de travail, atteindre ses objectifs. En revanche, si j'avais réussi à obtenir des financements, donc lever des fonds auprès de Business Angel, je ne parle pas forcément de fonds d'investissement, bah, peut-être que ça m'aurait permis de pérenniser l'activité de ma société et de travailler dans des conditions un peu plus confortables.
Ouais.
Ce qui m'aurait sécurisé pour pouvoir poursuivre mon activité dans le temps.
Ouais.
Après... c'est moi qui ai décidé d'arrêter MySkit. J'aurais pu continuer de très longtemps comme ça. Juste parce que je ne m'y retrouvais plus.
Ouais.
Personnellement. C'est-à-dire que, je te l'avais expliqué lors d'une conversation un peu plus personnelle, c'est qu'au bout d'un moment, ça faisait 5 ans que je travaillais sur ce projet-là, sur cette entreprise. Et c'est pas que j'avais fait le tour, mais j'avais envie d'autre chose.
Ouais.
Et en fait, finalement, c'est pas de la com, c'est la continuité de MySkit. Puisque avec mon activité... de kit beauté, j'organisais tous les mois des événements à Paris, j'invitais déjà les influenceurs et la presse à participer à ces événements, je rencontrais énormément de marques, on réfléchissait à des dispositifs de communication, et c'est comme ça que j'ai forgé mon expérience en tant que communicante, parce que j'avais pas les études pour, et j'avais jamais fait de stage dans un service de com, entre autres. Du coup, voilà, c'est pas un échec, mais c'est un regret. J'aurais bien voulu voir... parce que ça aurait pu donner si, effectivement, j'avais eu les financements nécessaires pour pouvoir développer mon entreprise et recruter notamment du personnel.
Et c'est intéressant que tu mentionnes le fait que tu n'as pas forcément eu de formation en communication. Et comme tu le dis d'ailleurs très bien, je pense que l'expérience est au fond la meilleure formation. Et que tu n'avais pas non plus d'expérience entrepreneuriale avant de te lancer dans MySkit. Est-ce que tu as essayé de te former malgré tout à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des rencontres, que ce soit à travers peut-être des mentors qui t'ont aidé?
Oui. Alors, j'ai quand même fait une année à HEC en entrepreneuriat. Mais auparavant, j'avais déjà cette envie de créer une entreprise, mais je n'avais pas confiance en moi. Tu sais, je voulais rentrer un peu dans le moule en me disant « Bon, je n'ai pas envie d'être salariée, mais si je n'ai pas le choix, bah, faudra bien que je le sois. » Et donc, je travaillais déjà de mon côté sur des petits projets entrepreneuriaux. Notamment, je voulais lancer une marque de iced tea. Donc,
t'avais déjà les idées, quoi.
J'avais une idée, une marque de thé glacé. J'avais travaillé dessus avec des copines. Donc, j'avais quand même... voilà, j'étais intéressée par l'entrepreneuriat parce que je voulais pas forcément trouver un emploi. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui me portait. Et j'avais pas confiance en moi pour le faire toute seule. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et un jour, on m'a parlé de la formation... d'HEC entrepreneur et je m'en sentais pas capable. Pour être honnête, moi je viens, j'ai un parcours assez particulier, hein. J'étais à l'université de Villetaneuse en droit, puis en AES. Ensuite, je suis allée à SAS où j'ai poursuivi ma formation, j'ai fait un master en économie et gestion. Ensuite, j'ai fait un an d'apprentissage toujours dans le domaine de l'économie-gestion avec une petite dimension entrepreneuriale et j'ai travaillé en parallèle en apprentissage dans l'aéronautique. Tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
C'est vrai, ouais.
Et après avoir obtenu mon M2, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux monter cette fameuse boîte de thé glacé ou est-ce que je continue à me former, ou est-ce que je pars à l'étranger. J'étais un peu perdue, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai ma sœur et mon petit copain qui m'ont dit, mais attends, t'as vu la formation HEC Entrepreneur, il faut vraiment que tu la fasses. Ça peut être bien pour toi, déjà ça peut élargir ton réseau, c'est une formation prestigieuse, c'est bien pour ton CV aussi si tu veux trouver un emploi plus facilement. Et puis si tu veux réaliser ton projet, bah, je crois que c'est la meilleure formation possible. Et effectivement, je me suis renseignée sur HEC, sur HEC Entrepreneur, et là je me suis dit, waouh, c'est génial comme formation, mais est-ce que je m'en sens réellement capable? Et tu vois, c'est là où la confiance en soi et l'assurance, bah, finalement, c'est déterminant dans tes choix.
Ouais.
Je me suis dit, ah, non, je ne le fais pas. Et donc, j'ai intégré l'association Nos Quartiers ont du Talent, qui m'a proposé de m'aider et de financer aussi cette formation.
Ouais.
Et donc, ils m'ont poussée à candidater, j'ai candidaté, et finalement, j'ai été retenue, à ma grande surprise, j'y croyais pas trop, et j'ai été retenue. Et, et là, on est venu me voir, on m'a dit, écoute, t'as un super profil, t'es déterminée, on peut t'aider, l'association peut t'aider à financer cette année. Et là, j'étais hyper contente,
cool.
Parce que tu vois, je viens d'un milieu modeste. Pour moi, c'était une des écoles les plus prestigieuses et jamais j'aurais pensé pouvoir l'intégrer. Donc, si ma sœur et mon copain ne m'avaient pas poussée, peut-être que je ne l'aurais pas fait.
Ouais, c'est ça que je trouve très difficile aujourd'hui, c'est que même si l'égalité des chances est sûrement dans une meilleure situation qu'elle n'était il y a 10, 30 ou 50 ans, je trouve que c'est très dur parfois cette réalité de ben si on ne croit pas trop en soi et que personne ne croit trop en nous. Attends, je reviens parce que je crois qu'il y a la porte qui s'ouvre toute seule. Camille, t'as mal fermé la porte. Ça m'est arrivé tout à l'heure, mais sinon t'as l'impression qu'il y a des fantômes.
Oh non, mais dis pas ça parce que moi je suis vraiment une flippette.
Genre, c'est... Non, mais là, je sais que c'est ma soeur qui a pas voulu faire de bruit, elle a mal fermé. Hop.
Ouf,
du frigo, ça
merci
peut aider.
Avec la chaleur.
Ouais. Là, c'est dur. En plus, j'ai l'impression que plus... Enfin, normalement, avec la soirée, ça s'est retombé, mais pour moi, c'est genre 19h-20h, l'heure la plus dure, chez moi, en tout cas. Ouais.
Mais c'est parce que là, t'es pas sortie. Hein. Franchement, c'est...
Mais si, je suis sortie.
Ah, t'es sortie.
Ouais, ouais, ce matin. J'étais dehors, j'étais...
Ouais, mais t'as eu le temps de...
Place de Clichy.
C'est de...
Ouais, c'est là le fait de limite de rester immobile. Enfin bref, après, je mettrai une serviette froide sur mon corps.
Ce que tu
c'est ma technique.
Ouais, j'ai pas testé la méthode, je te dirai ce soir.
Je vais reprendre juste du coup sur la partie égalité des chances.
Ouais.
C'est vrai que ce que je trouve assez, assez dommage, enfin triste aujourd'hui, c'est que même si on travaille à l'égalité des chances, il y a quand même cette réalité de soit, en fait, juste les personnes issues de certains milieux ne vont pas... ne vont pas penser ou ne vont pas connaître certaines écoles, certaines formations qui pourraient les aider, ou si ils ne croient pas trop en eux, malheureusement, parce que ben, c'est dur d'avoir confiance en soi quand on est si jeune, et qu'il n'y a personne comme toi, tu as pu avoir autour de toi, que ce soit des frères et sœurs ou des parents qui croient en nous, ben, on passe à côté parfois de belles opportunités, et c'est cool qu'il y ait des associations en soi qui travaillent. Je ne connaissais pas cette association, toi, dont tu parles.
Vraiment.
Ça s'appelle comment ?
Alors, ça s'appelle Nos Quartiers ont des talents.
D'accord.
Et du coup, c'est une association qui accompagne les jeunes diplômés pour les aider à s'insérer dans le milieu du travail.
Ok.
Comment ? En fait, ils ont les compétences, ils ont les connaissances nécessaires. Hein. Ils sont en général diplômés d'un bac plus 5. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réseau. Et le réseau, c'est ce qui compte le plus dans le milieu du travail. Vraiment. Et l'idée, c'est de les mettre en relation avec des cadres dans des entreprises qui vont, entre guillemets, pas les sponsoriser, mais les
parrainer,
encourager,
quoi.
Les parrainer, pour qu'ensuite, pour les aider dans leur recherche d'emploi.
Ouais.
Et souvent, les parrains ouvrent leur réseau.
Donc, ça peut
aider,
ouais.
Et effectivement, ça les aide. Et t'as plein de boîtes comme L'Oréal, Coca-Cola, qui ouvrent leurs portes à ces jeunes diplômés pour leur montrer les perspectives d'évolution auxquelles ils peuvent prétendre.
D'accord.
Et du coup, c'est hyper intéressant parce que t'as des jeunes diplômés qui viennent de fac de banlieue ou même de province qui se disent face à un étudiant d'une grande école parisienne, bah forcément, le recruteur va faire... en fait, on sait tout de suite le choix qu'il va faire. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de leur redonner confiance en eux, en leurs capacités, et les aider à pousser des portes.
Et se dire,
non mais attends, tu as les compétences pour postuler à ce poste, vas-y, je vais te coacher, et je vais te préparer à ton entretien.
C'est
mais il
cool.
faut aussi passer la barrière, tu sais, de la sélection sur CV.
Ouais.
Donc c'est pour ça que c'est bien d'être parrainé par des personnes qui ont un poste de haut niveau dans des grandes boîtes, parce que ça peut aussi leur permettre d'accéder au réseau de ses parents.
Ouais, c'est une très bonne idée. Quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui, peut-être qui vont se lancer sur le marché du travail ou qui y sont déjà, pour devenir un atout particulier? Je te demande parce que là-dessus, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je peux pas trop aider ma communauté, vu que moi, je ne suis pas passée par la case salarié ou même être vraiment au sein d'une boîte. Et que par exemple, tu vois, je sais qu'il y a autant je suis sur les réseaux sociaux, autant je ne suis pas du tout sur LinkedIn. Et du coup, tu vois, je me demande,
est-ce que... Ça m'intéresse.
Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai pas besoin. Moi, les marques me contactent directement par mail. Ma vitrine, c'est mes réseaux sociaux, que ce soit mon podcast, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube. Et tu vois, ça fait plusieurs fois que je me dis, je crois que j'ai commencé à écrire des articles sur LinkedIn, on sait jamais. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a un tel gouffre entre... En fait, c'est con, mais ouais, j'ai l'impression que moi, je suis pas du tout, en fait, sur le secteur des personnes qui sont aujourd'hui sur LinkedIn. Moi, j'ai vraiment l'impression de LinkedIn comme le réseau social des patrons un peu vieillissants qui sont à la recherche de la personne qui a le plus d'école à son arc ou qui a fait le plus de formation, tu vois.
Je pense que c'est tout le contraire,
en fait. Et qu'en fait, j'ai l'impression que... Vas-y, c'est pas pour moi. J'ai même l'impression que j'ai une longueur d'avance, tu vois, sur eux et que dans tous les cas, ils comprendraient même pas ce que je fais, tu vois. Et donc, c'est vrai que, sachant que j'ai déjà pas mal de choses à faire, ça passe toujours un peu à la trappe, alors que j'aime beaucoup écrire, par exemple. Et que je trouve que c'est une belle plateforme pour écrire des articles.
Du coup, je pense que tu devrais vraiment y être. Parce que au-delà de ce que tu décris, en fait, moi, j'ai une autre vision de ce réseau. Pour moi, LinkedIn, c'est un peu ta vitrine personnelle dans le milieu du travail. C'est-à-dire que c'est là où tu vas montrer ce que tu accomplis, ce que tu fais, parler de tes engagements professionnels ou même personnels. Je trouve ça assez intéressant. Ça te donne une autre image un peu plus vivante de ton CV, entre guillemets. Puisque là, tu interagis avec des gens de ton réseau, tu étoffes aussi ton réseau. Ça te permet de voir qui tu as en relation aussi avec une personne de ton réseau. Et du coup, ça facilite les relations.
D'accord. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu conseillerais... est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais, par exemple, aux jeunes de, écrire des articles sur LinkedIn pour se faire connaître? Est-ce que tu penses que toi, les jeunes que tu recherches, tu recherches, par exemple, qu'ils aient eu une expérience de l'entrepreneuriat ou juste qu'ils soient relevés les manches, tu vois?
J'ai un peu envie de me dire, toi,
si tu devais recruter, qu'est-ce que tu rechercherais en premier chez un potentiel candidat?
Mais là, on a eu pas mal de sessions de recrutement chez C'est pas de la com, puisque notre entreprise se développe plutôt bien en ce moment. Et du coup, c'est très drôle parce que, pour le coup, on ne s'attache pas au CV. C'est-à-dire qu'on va mettre une annonce, on va dire précisément ce qu'on recherche, les compétences recherchées. Et ensuite, on va filtrer, effectivement, on va jeter un œil sur le CV, mais ce qui compte le plus pour nous, c'est la lettre de motivation. Ouais. Parce que c'est là que tu vois vraiment si la personne va donner tout ce qu'elle peut te donner dans la lettre de motivation ou si elle va t'envoyer juste une lettre bateau qu'elle a trouvée sur Internet. Et c'est à partir de là qu'on fait vraiment notre sélection. Bien évidemment, on regarde sur le CV si la personne a les compétences pour ce poste. Et ensuite, on propose un entretien. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on recherche aussi des compétences personnelles. C'est
Soft skills.
Ouais, c'est ça, savoir réagir, interagir avec son interlocuteur, voir la façon dont la personne s'exprime face au recruteur, voir quelles sont ses passions, si on a des points communs, si y a des sujets qui nous passionnent. Et en général, on parle de la mission, on parle du poste, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personne. Ce qu'elle dégage, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle peut nous apporter. Et c'est comme ça qu'on fait nos recrutements. Et après, on ne regarde pas le prestige de l'école. Après, si la personne qu'on a présélectionnée a en plus fait a une belle formation, why not? Mais ce n'est pas le critère principal. D'ailleurs, on a beaucoup de mauvaises surprises. Quand tu te fies trop justement au CV et que finalement, tu te dis, je reçois la personne qui te donne... lors de l'entretien, tu te rends vraiment compte de oui ou non si elle peut occuper ce poste ou pas.
Ouais, ça se ressent.
Ça se ressent en fait. Si elle est motivée, si... tu le ressens tout de suite.
Mais c'est cool que tu le dises parce que je sais que personnellement, je me rends compte de ça et que je me bats contre mes amis qui s'obligent limite à passer par des grosses boîtes alors qu'en soi, ils savent qu'ils ne vont pas s'épanouir dedans juste pour avoir un nom sur un CV. Et j'ai envie de leur dire, mais... Enfin, tu sais, moi, je suis vraiment dans la philosophie aime tous les jours de ta vie. Et j'aime pas trop cette idée de sacrifice, à part si vraiment c'est pour un truc que tu veux plus que tout et qui t'apportera vraiment du bonheur. Mais souvent, en plus, c'est pour l'idée d'un métier que tu te fais qui sûrement ne les rendra pas heureux. Et j'essaye vraiment de leur dire, mais je te jure, moi, je connais quand même beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de recruteurs. Ils veulent une personnalité, tu vois. Ils veulent que tu sois toi-même, que tu n'aies pas honte d'être toi-même, que tu te bouges. Mais en toi, que tu vas passer par tel cabinet de conseil ou pas, c'est pas le plus important, tu vois.
Après, la communication, c'est un secteur particulier où vraiment tu as besoin. En fait, tu te fies pas trop au diplôme. Et encore, je parle pour nous, pour c'est pas de la com, mais je pense que tu as d'autres boîtes où le diplôme est ultra important. Et du coup, les stratégies de tes amis sont bonnes au final, ça paye. Tu vois bien. Mais je pense que c'est en train de changer.
Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de place à l'initiative que vont prendre les gens. Tu vois, aujourd'hui, on va. Enfin, je sais que moi, ça, je trouve ça marrant, mais tu vois, une personne qui a une petite communauté sur les réseaux sociaux, ça va être une plus-value de fou aux yeux des recruteurs parce que, ben, ils maîtrisent les réseaux sociaux,
c'est
tu vois.
C'est ça, et puis savoir créer une communauté, interagir avec elle, créer du contenu, donc forcément, c'est un plus. Ouais. D'ailleurs, nous, ce point-là, il est ultra positif.
Ouais.
Lorsqu'on recrute.
C'est vrai.
Pareil, savoir prendre des photos, pour nous, c'est ultra important. Donc, c'est un vrai
ça
plus.
Devient, ouais,
d'ailleurs, on pose ces questions avant même de... c'est-à-dire, s'il y a un profil qui nous intéresse, on pose des questions complémentaires. Est-ce que, par exemple, tu sais prendre des photos? Quelles sont tes activités au-delà tes activités personnelles, tes hobbies? Mais ça nous intéresse vraiment. Ce n'est pas des questions bateaux.
Non, c'est pour connaître.
C'est pour mieux connaître la personne.
Si jamais on te proposait de changer de métier demain, tu peux choisir le métier que tu veux. Qu'est-ce que tu dirais?
Je pense que je serais médecin.
Ok.
Ouais. Enfin, c'est ce que je te disais aussi au début.
Ouais.
Je pense que si je devais revenir en arrière et choisir une autre voie, je choisirais celle de la médecine.
C'est vrai qu'en fait, c'est compliqué parce que, tu vois, je trouve que c'est peut-être un des seuls métiers où tu peux pas trop faire ça on the side.
Oui,
tu vois, limite, si t'étais médecin, t'aurais peut-être pu avoir un truc de com à côté, mais alors là, tu peux pas soigner des personnes.
Tu es tellement utile.
Ah, mais grave.
Et tu donnes vraiment du sens à ta vie aussi.
Hein, ouais. Est-ce que tu recherches, toi, ce sens aujourd'hui?
Oui, forcément. Je veux dire, quand tu travailles sans donner de sens à tes actions... Bah, t'as un peu l'impression de travailler dans le vide. Enfin, je parle pour moi.
S'il n'y
a pas de sens dans ce que je fais, je vois pas pourquoi je l'ai fait, ces choses-là.
Bah, c'est cool, tu vois, tu me disais que t'avais écouté, que t'avais commencé à écouter l'épisode que j'ai fait avec Irène, la fondatrice de Paulette. Je sais pas si t'es arrivée au moment où elle annonce qu'elle a monté en fait deux autres projets. Un sur une de ses passions qu'elle a décidé d'écouter, qui est l'ésotérisme. Donc tout ce qui va être la, enfin, médium, voyance, les pierres et tout. Et de fonder une asso qui s'appelle Hacker Asso, à vérifier dans les notes du podcast, et qui en fait, je trouve, c'est une super bonne idée. C'est que, en fait, tu vas pouvoir avoir une vraie visibilité sur. Enfin, tu vois, ils mettent en relation plusieurs associations. Tu vois, un truc un peu qui va rassembler les associations, parce que parfois on sait pas trop à qui donner, parce qu'il y a plein d'actions dans lesquelles tu peux agir. Et en fait, soit tu peux faire un don financier et ça peut être réparti dans plusieurs assos, soit tu peux donner autre chose qu'en fait de l'argent, parce que parfois il y a aussi la barrière, tu vois, financière, que ce soit ton temps, que ce soit un coup de pouce, tu vois, que ce soit des actions ponctuelles. Et je trouve ça génial. Même si Paulette, c'est déjà un magazine très engagé, feel good et tout, elle recherchait aussi ce côté purement altruiste, tu vois, à but non lucratif. Et ça me fait plaisir de voir. Elle a une super idée aussi, c'est que comme Paulette est un magazine, elle propose maintenant aux annonceurs qui mettent des annonces dans Paulette de faire. Il y a le tarif pour une page dans leur journal, et pour une certaine somme, t'as la même page, mais avec marqué telle marque soutient à travers cette page de pub telle association.
Ouais,
et donc le prix est un peu supérieur. Et en fait, c'est quand même dit clairement que la marque, du coup, pour l'image, c'est génial. Et en plus, ils ont fait une bonne action. Et elle a réussi à allier le côté un peu qu'on a tendance à séparer des marques et de l'industrie avec l'associatif. Et comme quoi, je pense qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup la question et que ça va donner de belles choses. Ça me donne confiance pour l'avenir. Bon, pour pas te retenir trop longtemps, je vais te poser deux dernières questions.
Dis-moi.
La première, parce que je sais quand même que tu as lu pas mal de choses ou vu pas mal de choses, est-ce qu'il y a une ressource en particulier que tu conseillerais à nos auditeurs et nos auditrices qui t'a changé la vie ou qui t'a énormément aidé, que ce soit livre, film, image, ce que tu veux?
Waouh, c'est une belle question.
T'as le droit de réfléchir.
Oui, ah, merci.
On peut faire des cuts et tout, donc, parce que parfois les gens sont là. Oui, c'est mon moment.
Faut pas se tromper. En fait, concernant l'entrepreneuriat ou au-delà de l'entrepreneuriat ?
J'ai envie de te dire au-delà parce que je pense que ce qui nourrit l'âme peut toucher d'autres âmes.
En fait, c'est un peu compliqué. Je pense que ce sont les rencontres que tu fais au quotidien qui permettent, qui te changent en quelque sorte la vie. Tu vois, typiquement, Yazichir que j'ai rencontré, donc le fondateur de l'association Nos quartiers ont des talents, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté dans le sens où il a cru en moi. Donc il a cru en moi, il a décidé de me parrainer alors qu'il avait plein d'activités. C'est-à-dire il avait sa boîte, l'association à gérer, et il m'a permis de rencontrer des personnes aussi que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc au-delà des livres, au-delà des films, je pense que ce qui est important aujourd'hui sont les rencontres. Et c'est drôle, mais au quotidien, dans le cadre de mon entreprise, ou même par exemple, si quand même dans le cadre de mon entreprise, j'ai pu rencontrer de belles personnes qui tour à tour m'ont apporté quelque chose, et ces choses ont permis moi aussi de me développer. Tu vois ce que je veux dire,
de nourrir,
nourrir et de voir ce qui était aussi important pour moi dans la vie. Donc tu vois, typiquement toi aussi tu es une belle rencontre. Et sans mon métier, je n'aurais pas eu l'occasion de te rencontrer. Je t'aurais peut-être suivi sur les réseaux sociaux, mais je n'aurais pas eu l'occasion de te rencontrer. Et c'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat, pour revenir à ce sujet-là, c'est que tu rencontres énormément de personnes. Et ces personnes peuvent t'aider à faire évoluer ton projet.
Et toi-même,
en fait. Et toi-même aussi.
Au final,
et t'aider à déterminer ce que tu veux vraiment dans la vie, dans quelle direction tu veux aller.
Ça va faire le pont parfait avec la dernière question, qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est être libre de faire ses choix. C'est-à-dire ne pas être obligé de subir. C'est être libre, oui, d'aller dans les directions qu'on a décidé de prendre.
Super, bah, merci beaucoup Joël,
merci
beaucoup d'être venu sur InPower, et merci en plus pour tout ce que tu fais. Comment est-ce qu'on peut permettre aux personnes qui nous écoutent d'en savoir plus sur toi ou d'en savoir plus sur C'est pas de la com?
Alors j'ai un compte Instagram personnel.
Vous allez rire du nom.
Ah oui, je vais pas dire Miskit comme toi au départ, hein. C'est Miskit Beauté, puisque c'est en référence à ma première société, et je n'ai toujours pas changé le nom,
honte
à moi, mais en même temps, c'est un des souvenirs que je garde
de
ma première boîte. Et sinon, pour découvrir mon activité d'entrepreneur, c'est pas de la com, j'ai un site internet qui s'appelle c'estpasdelacom.com, donc ça s'écrit c'estpasdelacom, donc c'est pas de la com. Et sinon, j'envisage peut-être prochainement de développer un webzine où je partagerai mes petites astuces d'entrepreneur, et où j'aimerais aussi mettre en avant des marques qui n'ont pas l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des influenceurs ou de la presse pour les mettre en lumière, tout simplement.
Trop cool.
Et ça viendra d'ici quelques mois.
C'est cool, c'est un des petits projets dont tu me parlais il y a quelques semaines,
autres,
dont tu voulais pas trop...
Ah non, c'est pas celui-ci.
Ah, c'est pas celui-ci encore...
Un peu plus big.
C'est cool. Tu vas ne plus t'arrêter. Fais attention. Cette fois-ci, on a dit on fait gaffe. Trop cool. Bon, bah merci Joël. À très
merci
vite.
Merci à toi.
Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Joël. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @myskitbeauty et @mybetterself pour que l'on puisse vous voir et vous riposter. N'oubliez pas également de vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes, et à nous suivre sur Instagram @inpowerpodcast où je vous partage des conseils pratiques pour vous aider à prendre le pouvoir de votre vie au quotidien. Je vous remercie sincèrement et j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com